BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, je reçois Olivia Grégoire et les ministres délégués chargés des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonsoir Olivia Grégoire.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous sortez tout droit de l'Assemblée nationale. On parlera du reste de partage de la valeur, puisque c'est en discussion, le texte est en discussion à l'Assemblée nationale. Et puis du plafonnement des loyers commerciaux, parce que c'est aussi important. On verra que, notamment dans le secteur de l'habillement, il y a des faillites en série. Première question, peut-être une réaction à ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Macron, est-ce qu'il faut raccourcir les vacances scolaires? C'est un serpent de mer, mais en tous les cas, il a été remis au goût du jour par le président lui-même et qui demande évidemment au ministre de l'Éducation nationale, mais pas que, parce qu'il y a des conséquences économiques, de réfléchir sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, pour eux, c'est un enjeu très important. Ils préfèrent que ça soit étalé, les vacances scolaires.
Alors, c'est extrêmement frais, ça fait quelques heures. C'est une idée que le président a posée sur la table, d'abord et avant tout, parce que c'est un sujet en matière d'égalité des chances. Ça dépend de là où vous grandissez, ça dépend du pouvoir d'achat de votre famille. Il y a beaucoup de nos enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances, alors que d'autres, plus aisés, peuvent partir en vacances. J'en profite pour glisser, parce que c'est un sujet auquel je tiens, que j'ai d'ailleurs augmenté de 40% le budget du tourisme social, l'Agence nationale des chèques vacances, pour que nos plus jeunes, même si les parents ne peuvent pas les emmener, puissent partir en colonie de vacances, comme on avait fait les vacances apprenantes. Donc on a considérablement augmenté les budgets. Ce qu'a proposé le président de la République, c'est effectivement qu'on réfléchisse à cette durée de 2 mois, qui est parfois une souffrance pour des enfants qui ne partent pas, qui s'ennuient et qui ne changent pas de lieu. D'abord et avant tout, le ministre de l'Éducation nationale va expertiser cette idée, discuter avec les syndicats. Et moi, je ferai de même, évidemment dans le cadre de la coordination par la Première ministre. J'aurai, dès la fin de l'été, dès la rentrée, des échanges avec des acteurs que vous connaissez, qui représentent l'hôtellerie, la restauration, GHR, l'UMI, mais aussi l'hôtellerie de plein air, pour voir ce qu'ils en pensent. Il y a deux choses qu'il faut avoir en tête sur le tourisme. Le tourisme français se porte très bien. 73% de nos compatriotes ont l'intention de partir et 73% de nos compatriotes ont l'intention de partir en France. Jamais on a eu autant de recettes, 58 milliards d'euros, grâce aux touristes internationaux l'an passé. Donc le tourisme français se porte très bien. Est-ce que ça chamboule tout, pour le dire simplement, de revoir une dizaine ou une quinzaine de jours de vacances? Peut-être pas, parce que ce qui compte, c'est qu'il y a des vacances scolaires à d'autres moments. Il y a les vacances de Pâques, il y a la Toussaint. Et donc ce sont autant de recettes pour les acteurs du tourisme. Donc ce sera une discussion qu'on aura très certainement dès la rentrée, main dans la main avec les organisations professionnelles, pour entendre leur avis et voir si la perspective paraît possible.
Est-ce qu'on a trop de vacances en France?
On a pas mal de vacances.
Oui, vous osez dire trop de vacances.
Non, parce que... c'est pas parce que, par exemple, moi j'ai choisi de faire ce que je fais et que j'en ai très peu, voire pas, que j'estime que les autres en ont trop. On a une belle productivité en France. Ce qui compte, c'est qu'on travaille peut-être moins, on va travailler un peu plus avec la réforme des retraites qu'on a eu le courage de porter, mais on travaille bien et on produit pas mal. Notre productivité se maintient. Donc j'aurais pas, moi, d'avis ou de point de vue trop tranché. Ce qui m'inquiète, je veux dire, notamment depuis que je suis maman, c'est effectivement de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas et qu'on doit se poser la question. Peut-être vous-même vous en rappelez, moi je m'en rappelle. À la fin du mois d'août, je m'ennuyais et on est nombreux à avoir eu ce sentiment et parfois avoir eu envie que l'école reprenne plus vite. Ça me semble être une idée qui mérite d'être expertisée rapidement.
Moi, j'adorais les vacances, j'adore toujours les vacances et j'adorais l'école.
Moi, je partais
aussi.
Pas les 2 mois et donc à la fin de l'été, j'étais impatiente d'aller acheter mon cahier de texte, comme on disait à l'époque,
son
cahier, mes crayons et son cartable.
Top départ des soldes aujourd'hui.
Oui.
J'ai envie de dire, ça intéresse qui encore? Ça vous intéresse encore, top départ des soldes?
Moi, ça m'intéresse encore.
Parce qu'on a l'impression qu'il y a des soldes tout le temps.
Oui, mais
donc,
l'un n'empêche pas l'autre.
Les soldes permanentes.
On en parlera avec la crise de l'habillement. L'un n'empêche pas l'autre. Vous avez des sites, notamment des plateformes françaises connues, compétitives, efficaces, qui proposent des promotions toute l'année. Bon, ça n'empêche pas, en province, dans certaines rues piétonnes, que vous ayez repéré telle veste, telle paire de chaussures chez votre commerçant de proximité et que vous y alliez plutôt pendant les soldes. Donc déjà, je n'oppose pas les deux. C'est pas parce que vous avez des promotions parfois toute l'année que le moment des promotions est délaissé. Les soldes viennent de commencer. Il faut quand même se rappeler que ça fait moins de 5 ans, c'est la loi Pacte qui a apporté l'évolution des soldes. À partir du dernier mercredi de juin, pour 4 semaines, dans la loi Pacte, on a voté en 2019. Ouais. La valse des étiquettes pendant les soldes, c'est bien. La valse des lois, des décrets ou des propositions sur ces sujets, ça me semble moins bien. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. On a ouvert le Conseil national du commerce, vous le savez, j'étais venu en parler ici. Au moment où on se parle, au Conseil national du commerce, les loyers, l'inflation, la mobilité, les zones à faible émission, voilà les sujets qui préoccupent les commerçants. Si, au sein du Conseil national du commerce, les organisations professionnelles veulent faire des propositions, je pense aux acteurs de du commerce de proximité, ils le savent, ma porte est ouverte et je suis prête à en discuter avec
vous,
eux.
Et vous les attendez? Vous les attendez toujours, oui.
J'attends toujours des propositions, oui, mais s'il y a des belles propositions...
Vous n'avez pas de propositions.
Ce qui signifie que ce n'est pas la priorité aujourd'hui des commerçants de proximité, qui trouvent quand même, pour la plupart, que pendant les soldes, ils arrivent aussi à écouler une partie du stock, qui est une grosse problématique dans le secteur de l'habillement, notamment pour les petits commerces. Et donc, je pense que certains commerçants y trouvent encore leur intérêt. On verra les résultats fin juillet. Et j'ai aucun tabou sur l'idée d'en reparler au Conseil national du commerce. C'est pas un impératif porté par les acteurs.
Voilà, mais c'est à eux de vous faire des propositions. Hein. Vous
ou de me dire il y a un problème, auquel cas on bougera. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui me remonte très fortement.
Il y en a pas. Vous parliez de l'habillement. Effectivement, il y a des faillites en série. On a encore appris aujourd'hui, effectivement, après Camailleux, Kuka et Gap, qui a aujourd'hui c'est du pareil au même. Et Sergent Major qui vont déposer leur bilan, qui sont en situation dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, paradoxalement, on n'a jamais acheté autant de vêtements. Je crois qu'il y a eu 3 milliards de pièces qui ont été achetées en 2022. Tous les records sont battus. Vous voyez, c'est un côté un peu paradoxal. Comment vous l'expliquez?
C'est parfaitement paradoxal. Moi, ce qui m'intéresse aussi, avant de dire comment on s'en sort, parce que je ne suis quelque part que ministre et je ne suis ni une banque ni un fonds d'investissement, et l'État n'a pas vocation, heureusement, à interférer dans toutes les relations commerciales. Non, mais heureusement, il faut quand même le redire.
Mais quand on voit toutes ces marques qui s'effondrent, quand même, ça peut vous interpeller en tant que ministre.
D'abord, ça m'interpelle en tant que consommatrice.
Oui.
Ce sont des marques en plus fortes,
emblématiques,
que les Français apprécient, donc bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, moi, déjà, avant de dire devant, déjà, arrêtons-nous en arrêt sur image. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise de l'habillement? Bien sûr, conjoncturellement, il y a l'inflation, il y a les prix de l'énergie, mais il y a aussi des mutations de la consommation, des changements dans le comportement du consommateur que je ne dirige pas, et là aussi tant mieux, et on le voit tous dans nos façons de faire, et notamment chez les plus jeunes. Il y a parfois des paradoxes chez notre jeunesse qui défend le climat et qui va acheter en ligne sur des plateformes étrangères qui n'ont pas des pratiques sociales ou environnementales très recommandables. Et cette jeunesse, quand on les interroge, ils savent très bien qu'ils sont en plein paradoxe d'ailleurs, et ils en sont conscients. Aujourd'hui, j'ai quand même deux choses à partager sur le secteur de l'habillement, parce qu'effectivement, je suis préoccupé par cette crise et je recevais encore des acteurs importants de l'habillement. D'abord, j'ai quand même à cœur de dire qu'il y a aussi toujours quand même des marques qui s'en sortent bien. Okay. Toutes nos marques d'habillement ne sont pas en train de vaciller.
Non, mais il y en a pas mal.
Certaines gagnent des parts de marché.
C'est ma question,
Et j'en ai un certain nombre en tête. Deux, il y a quand même une réalité, c'est que l'habillement vit ce qu'on appelle une crise de surcapacité. Certaines enseignes que vous avez citées, l'une d'entre elles par exemple, avaient plus de 600 magasins dans notre pays. Avec des magasins, parfois deux magasins dans la même rue piétonne. Quand vous avez une concurrence féroce en ligne, plus une tendance profonde avec la seconde main, qui est une vraie tendance de fond, il est vrai qu'il y a aujourd'hui un choc de réalité dans le secteur de l'habillement, une crise de surcapacité qui impose deux choses aux acteurs, et c'est d'ailleurs ce que les bons acteurs font. Un, s'engager sur le chemin de la seconde main. Deux, personnaliser beaucoup plus les approches. Il y a des grands acteurs de l'habillement français qui travaillent là-dessus, et les produits, personnaliser au maximum. Et trois, renforcer la stratégie digitale. Vous avez souvent des acteurs du digital ici, ils le disent bien mieux que moi. Le digital, ça n'est pas mettre son stock physique en ligne. Ce sont des stratégies, ce sont des créations spécifiques, et il faut investir ces terrains-là.
Juste pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur cette fast fashion, notamment comme la plateforme, pour pas la citer, Shine, qui est grand succès auprès des adolescents, parce que c'est vrai que ça coûte pas cher, il y a plein de choses. Et il faut limiter un peu l'impact de ces, de cette fast fashion.
C'est l'avantage ou l'inconvénient d'être ministre. Avant de prendre une décision, il faut être éclairé.
Oui.
Donc je ne commenterai pas Edwige Chevrillon, parce qu'au moment où nous nous parlons, des enquêtes de certains services sont en cours, et que je n'ai pas à commenter, mais comptez sur moi pour commenter quand j'aurai les résultats des enquêtes.
Mais il y a déjà une information et des enquêtes sont en cours.
Donc, nous observons les pratiques de consommation, les pratiques trompeuses en matière de promotion et les pratiques commerciales en général d'un certain nombre d'acteurs en ligne. Oui.
On va rester justement sur la question des prix, sur les prix alimentaires. Tiens, on attend demain l'INSEE qui va donner son chiffre. À votre avis, est-ce que le pic d'inflation dans l'inflation alimentaire, est-ce qu'il est atteint ou pas?
Alors c'est drôle parce que j'essaye quand même depuis 6 mois d'éviter et les pentones, rouge, orange, vert, et les prédictions, parce que je suis pas très talentueuse en termes de prédictions.
Enfin, vous avez des services derrière, quand même. C'est juste pour avoir une intuition.
Il se passe beaucoup de choses. Et ici, on est quand même sur un plateau d'économie. Il y a des prix qui baissent, des cours qui chutent. Il y a des cours qui se maintiennent, voire qui augmentent. J'entends beaucoup de généralités et pas mal de caricatures sur un sujet qui demande quand même un peu plus de précision. Ce qu'il y a de sûr, déjà, Edwige Chevrillon, c'est que ça a arrêté de monter. OK? Je parle de l'inflation alimentaire, mais c'est pas là pour l'inflation lycée au global aussi. L'inflation alimentaire, elle était à 15,8 en avril, elle est à 14,9 en mai. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que nous serons en juin encore en baisse, plus bas que 14,9%. Et je pense aussi, et j'en suis même sûr, que nous aurons, à partir du 1er juillet, des baisses de prix visibles dans les supermarchés sur un certain nombre de références. Vous le savez, nous avons appelé avec Bruno Le Maire, en plus du panier anti-inflation que j'ai porté et qui va être prolongé pour certains jusqu'à la fin de l'année, panier anti-inflation dont on mesure toujours une baisse moyenne d'environ 13% sur les produits du panier au mois de juin. Donc cette baisse, elle est là. En parallèle, on a demandé aux industriels, depuis 2-3 semaines, je vais réagir sur ce qu'on dit ce matin, les acteurs de la grande distribution. Mais moi, je ne suis pas partie prenante. Moi, je ne suis ni distributeur.
Non, mais en même temps, vous l'avez mis la pression. On est d'accord. Vous êtes
On a mis la pression à tout le monde. Oui. Janvier, février, mars, on a mis la pression aux distributeurs et je sais de quoi je parle parce que je l'ai mise.
Oui.
Les industriels, on leur a mis la pression ensuite pour que les prix baissent.
Oui, mais où sont les résultats?
Mais en fait, surtout pas vous. On ne négocie pas 75 des plus gros acteurs de l'industrie agroalimentaire sur des centaines de références auprès de dizaines d'industriels comme on fait un TikTok ou un tweet.
Donc, non, mais depuis le mois de mars, on est fin juin. Oui.
Non. On n'a pas demandé au mois de mars aux industriels de renégocier. On a demandé, il y a moins d'un mois, aux industriels de renégocier avec
Mais attends quand même, je reprends la déclaration ce matin, puisque vous l'avez citée sans le citer, de Michel Cher, le patron de Systémis, une confrère de Radio Classique, qui dit, en fait, c'est pas des négociations, ce sont des promotions, puisqu'on parle du solde tout à l'heure, là, ce sont des promotions, c'est pas des négociations. Donc là, on n'a rien... Et donc, en termes de sur des négociations commerciales.
Et donc ?
Et donc, il appelle encore une fois à des négociations commerciales et il dit, les industriels ne jouent pas le jeu.
Alors,
voilà.
Il vous a pas échappé depuis quelques mois, les jours pairs, c'est la faute des industriels, les jours impairs, c'est la faute des distributeurs. Moi, je suis pas là pour donner des points. Moi, je suis là pour garder les tickets de caisse.
Ouais.
Ok ? Est-ce que, sincèrement, quand vous achetez un yaourt, comme on les voit derrière vous, est-ce qu'en tant que consommatrice, vous vous dites, cette baisse de prix est-elle issue des renégociations commerciales demandées par le gouvernement ? Ou d'une remise sur facture réalisée par les industriels aux distributeurs. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Jamais.
Non.
Vous
voyez mais en même temps, prix... nous on est en train de, on a le droit aussi de juger votre action. Vous voyez,
moi j'entends ce que dit.
J'entends ce que dit
Dominique Schellcher. D'abord, moi je ne juge pas la fin d'un match quand le match n'est pas terminé. On n'a pas terminé les renégociations autour des 75 industriels. Mon cabinet, mes services reçoivent tous les jours des listes de prix de l'industrie agroalimentaire. La semaine prochaine, nous prendrons la parole avec Bruno Le Maire pour dire très précisément sur des centaines de références où et quand ça va baisser. Mais de grâce, ne confondons pas un sujet qui est un sujet inter-entreprise où il y en a un qui dit « tu me fais une remise sur facture, tu me fais pas une renégociation ». Moi, je cherche quoi ? Je cherche à ce que, dès la mi-juillet, dès le début juillet, sur le ticket de caisse, il y ait des baisses. Que ce soit des remises sur facture, que ce soit de la renégociation, les Français, comme moi, la ministre de la Consommation, aujourd'hui, ça n'est pas l'urgence. Donc, j'entends ce que dit Dominique Schellcher, mais c'est un raisonnement d'inter-entreprise. Moi, j'ai à défendre le pouvoir d'achat du consommateur.
Et puis la réponse, donc, ça sera quel jour, la semaine prochaine ?
Je sais pas, figurez-vous que je rejoins Bruno Le Maire juste après le plateau, et je ne manquerai pas de vous dire quand, ce sera au courant de la semaine prochaine. Mais
est-ce que
nous n'avons pas... démérité, ni manquer d'efforts pour dire aux industriels de l'agroalimentaire, comme nous l'avions dit aux distributeurs, de prendre leurs responsabilités. J'étais encore avec eux la semaine dernière. Des centaines de références vont voir leur prix baisser. Et je voudrais ajouter une chose.
Rapidement, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser.
Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui papotent de ce sujet et qui manquent de choses précises. Il y a un institut qui est très reconnu en consommation qui s'appelle Nielsen. Un tiers des catégories de produits de grande consommation ont vu leur prix baisser entre la dernière semaine de mai et la première semaine de juin.
Vous avez vu ce qui
Moi,
se passe
Moi, je commande ça. Ouais. Ce sont des chiffres D'accord. étayés.
Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne?
Oui.
Il y avait une suppression de la TVA sur des produits de première nécessité. C'est une bonne idée, ça, non?
Bah, déjà, c'est une idée coûteuse. Mais il y a des bonnes idées coûteuses.
Ouais.
Mais je vous cache pas que dans notre situation actuelle, c'est pas D'accord. une idée à 10 milliards. Non, mais pareil, une idée à 10 milliards d'euros où l'inflation alimentaire espagnole demeure peu ou prou au même niveau qu'en France, alors que ça a coûté des dizaines de milliards.
3
excusez-moi.
Milliards
d'État. Oui, mais et c'est prolongé. Et pourquoi c'est prolongé, Edwige Chevrillon?
Parce que l'inflation ne baisse pas.
Pas du tout, parce qu'il y a des élections législatives et que c'est
oui,
très
mais
bien
aussi.
Pour faire voter les gens.
Oui,
voilà.
Il y a des élections aussi chez nous.
Pas législatives.
Non, ça m'a échappé.
Non, mais voilà.
Olivia Grégoire, donc hors de question d'avoir cette piste-là.
Hors de question. Et prenez l'Allemagne. L'Allemagne se bat très bien en inflation alimentaire. L'inflation alimentaire baisse. Est-ce que l'Allemagne a touché à la TVA?
Un mot rapide, puisque vous en sortez, qui a été adopté, le plafonnement sur les loyers commerciaux.
Et du parc social,
oui.
Les deux, mon général.
Quoi, combien, quoi?
L'an passé, nous avions voté dans le paquet pouvoir d'achat le fait que le plafonnement de ce qu'on appelle l'ISLC, indice des loyers commerciaux, qu'on le caperait au maximum à 3,5%. Il y a 430 000 commerces de proximité chez nous, dont dans l'habillement, qui en souffrent. Et donc, nous venons de revoter, et je veux remercier Thomas Cazenave, le député qui a porté cette proposition de loi, contre l'avis des sénateurs, contre l'avis des NUPS, parce qu'il faut dire les choses, le fait que nous allons prolonger le plafonnement des loyers commerciaux et des loyers du parc social à 3,5% maximum d'augmentation. Si nous n'avions rien fait, l'INSEE a sorti les chiffres il y a quelques jours, c'est 6,69% d'augmentation que nos commerçants auraient eu à supporter. Ça vient d'être voté. Merci aux députés.
À propos de députés, partage de la valeur, le texte donc qui est issu justement de l'accord qui avait été signé entre les partenaires sociaux est en discussion à l'Assemblée nationale. Il y a tout un débat pour savoir est-ce que partage de la valeur, intéressement, participation, voire prime Macron, est-ce que ça doit remplacer, ça va remplacer les hausses des salaires? Et il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce plan-là, inquiétudes qu'on peut comprendre lorsqu'on écoute certains chefs d'entreprise ici présents sur le plateau de BFM Business.
Alors, deux choses. D'abord, l'année qu'on vient de passer démontre que non, Edwige Chevrillon. Des hausses de salaire en moyenne, moi je parle de l'écosystème dont j'ai la charge, dans les PME, c'est entre 4 et 5% d'augmentation de salaire qui ont été négociées au NAO en négociation de septembre dernier.
Mmh.
Bon, donc les salaires ont augmenté dans la plupart des PME. Et en même temps, c'est aussi dans les PME que vous avez eu le plus de primes Macron, la prime partage de la valeur. Et en plus, la prime Macron, dans ces entreprises, elle a souvent dépassé 1 000 euros, c'est-à-dire plus que dans les grands groupes. Donc ce que je viens de vous dire, c'est qu'on peut et avoir vu une augmentation des salaires et avoir des primes. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Deux, je vais revenir un peu en arrière, mais quelle est cette société, et c'est un combat que je mène notamment au Parlement contre l'extrême-gauche, quelle est cette société où il n'y a que le salaire qui compte? On a tous grandi, en tout cas, j'en connais beaucoup, avec des parents qui avaient ce qu'on appelait à l'époque un fixe et qui avaient parfois des primes ou du variable.
Ce qui mettait... Oui, enfin, le salaire, c'est quand même tout ce qui tombe chaque mois.
Non, mais ça...
Qui définit votre...
Ça m'a pas échappé.
Votre
mais
pouvoir
enfin,
d'achat.
Dans des métiers comme VRP, moi, j'avais une mère qui était indépendante et VRP, le salaire permettait de payer ce qu'on appelle les dépenses contraintes, le loyer, l'assurance de la voiture, mais... Les vacances, les petits plaisirs, machin. Heureusement, il y avait des primes. Non, mais je pose juste une question. Depuis quand c'est mal, les primes? Je demande ça
à l'extrême-gauche. C'est pas mal, c'est juste que le salaire, c'est mal. Bien aussi.
Mais ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre.
Voilà.
Ça fait
on a compris.
4 ans que j'appelle ce débat. 4 ans. Parce que j'ai porté une proposition de loi juste avant d'être ministre. En 2020. Ça fait 4 ans que je travaille sur ce sujet. 4 ans que j'y crois. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente l'épargne salariale en moyenne par an pour les Français qui en reçoivent? Pour des millions d'actifs.
Ça dépend si vous êtes dans un grand groupe ou dans une PME. Ou
c'est là, une moyenne.
Ouais.
En moyenne.
Ouais, je ne sais pas ce que veut dire la moyenne, là.
Bah, la
parce
moyenne, c'est vous prenez toute la participation, tout l'intéressement et tout l'actionnariat salarié.
Ouais.
Vous savez combien ça représente? Ça représente 2 440 euros par salarié.
Ouais,
c'est un 13e mois.
Oui, bien sûr, vu comme ça, mais c'est plutôt dans les grandes entreprises.
Délai de paiement. Qu'est-ce qu'on fait, justement?
Oui, délai de paiement.
Mais on ne peut pas ouvrir la porte et pas me laisser dire que, justement, ce qu'on fait, c'est enfin faire descendre
c'est
le partage
l'essayer.
Dans les
Absolument,
petites.
Absolument, tout à fait.
En comprenant que les petites doivent avoir le choix des outils. On ne peut pas imposer à une toute petite participation ou intéressement. On doit imposer, vous choisissez le dispositif que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que vos salariés aient plus de pouvoir d'achat.
Alors, encore deux questions, il nous reste 4 minutes, hein, c'est pour
on
vous
va
dire.
Y arriver.
Si, délai de paiement, vous voulez accentuer, multiplier les némanchés. Parce que bizarrement, c'est les PME, justement, on en parlait à l'instant, les PME qui payent mieux que les grandes entreprises.
D'abord, c'est complètement. L'Observatoire des délais de paiement est installé depuis des années. Et là, tout le monde se félicitait de voir qu'il diminuait un peu ces délais de paiement. Moi, je ne suis pas satisfaite, pour le dire simplement, et en moins de 2 minutes. Les délais de paiement en moyenne d'une PME, c'est 47 jours. Normalement, c'est une trentaine de jours, hein, ouais. Vous le savez. 47 jours. C'est combien pour les grands groupes ? C'est 70 jours. Donc, on a des PME qui représentent 99% de nos entreprises, quand même, hein, qui sont les premières à payer et les dernières à l'être. Moi, je ne peux pas me satisfaire de ça. Donc, effectivement, nous avons décidé, et nous le ferons avec Bruno Le Maire et avec l'ensemble des ministres de Bercy, quand la direction de la répression des fraudes observe que des délais de paiement sont iniques, il y a une communication de la DGCCRF, mais jusque-là, elle n'était pas reprise, pas amplifiée. Je ne me gênerai pas pour citer publiquement les grands groupes qui font de la trésorerie, comme on dit très simplement, sur le dos des PME.
Ouais.
Vous savez pour combien il y en a de trésorerie ? 12 milliards d'euros.
Ouais.
Ok, quand on me dit que la trésorerie des PME est tendue, voilà une des sources. 12 milliards d'euros, c'est plus que le budget du ministère de la
Justice. Justement, la situation est quand même compliquée lorsqu'on est chef d'entreprise d'une PME, de PMI, ben aussi sans doute des grands groupes. Je voudrais qu'on parle, parce que c'est un sujet qui vous est cher, Olivier Grégoire, pour conclure, la santé mentale des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ?
Merci déjà de me permettre d'en dire un mot. Je trouve en un mot que ça fait des décennies que je trouve que c'est un sujet tabou. On en parle très peu.
Et pourquoi tout d'un coup vous y pensez ?
C'est parce que j'ai la chance d'être ministre et que j'ai la chance de pouvoir étayer une feuille de route et de travailler aussi des sujets qui m'importent. Je pense que ce qu'ont vécu les chefs d'entreprise et notamment des petites ces 3-4 dernières années, du Covid, de l'inflation, est extrêmement difficile. On parle beaucoup de leur résilience. Mais moi, j'ai à cœur aussi de m'inquiéter de leur santé. Vous savez, les entrepreneurs que vous recevez, leur entreprise, c'est leur bébé, ils y donnent leur vie, ils mettent tout un stress, toute une... Et je trouve qu'on ne s'intéresse pas du tout au sujet de la santé mentale et psychologique des dirigeants. Il y a deux formidables associations, APESA à Maroc, qui travaillent main dans la main dans ce pays. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le moral, qu'il y a un site qui s'appelle le portaildurebond.fr, où des femmes et des hommes sont là pour vous accompagner. Pour vous aider aussi à vous décharger, j'aimerais travailler dès la rentrée prochaine avec ces spécialistes de la santé au travail sur les dirigeants de PME.
Et pour que ça débouche sur quoi, vous voyez, sur...
Bah déjà qu'ils se posent la question, Edwige Chevrillon, parce qu'ils ne se posent pas la question. Je n'ai pas le temps d'être malade. N'est-ce pas une phrase que vous avez déjà entendue d'un patron de PME ? Et on arrive à des drames. Donc déjà, si on arrivait à ritualiser le fait qu'ils fassent un diagnostic pour savoir comment lui y va, au moins une fois par an, et qu'ensuite on les accompagne plus, j'aimerais faire des propositions et plus les accompagner, parce qu'on parle beaucoup d'inflation, de chiffre d'affaires, mais pas assez de leur santé.
Ça veut dire que vous allez... Je cherche à voir... Ça peut être quoi ? Ça peut être un texte ? Ça peut être une réflexion ?
Non, pas forcément. Ça peut être du réglementaire. Ça peut être le fait que l'État décide d'engager peut-être un peu de budget pour qu'on diffuse beaucoup plus le diagnostic, faire un premier diagnostic. Vous savez, quand on a un problème, d'abord, il faut installer la question. Est-ce que tu as un problème ? Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Peut-être qu'il faut qu'on soutienne un peu plus les femmes et les hommes du rebond. Je pense que c'est un vrai sujet politique au-delà d'être un sujet économique. On n'a pas le droit à l'échec dans ce pays. C'est quelque chose qui est très mal considéré. Je pense que c'est un vrai sujet de société. Je pense que les patrons de PME ont des choses à dire. Donc je vais lancer une réflexion et porter des actions dans les mois qui viennent en écoutant aussi les spécialistes que je ne suis pas sur ce sujet.
Feuille de route donc chargée, on l'a compris, Olivier Grégoire, mais vous attendez aussi les propositions des acteurs de la distribution, du tourisme. Donc c'est la balle est aussi dans leur camp. Merci d'être venu
merci
ici.
À vous.
Olivier Grégoire, donc la ministre en charge des PME, du commerce, l'artisanat et du tourisme. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Évidemment, pour ceux qui l'ont regardé à la télévision, un petit QR code qui s'affiche. Vous pouvez la réécouter et la regarder, sinon sur le site de BFM Business, en replay, tout de suite, comme tous les soirs, c'est Tech & Co, François Sorel. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.